Chère Église EPM, bonjour. C'est un privilège de vous retrouver ce soir, une fois de plus, ce mercredi soir, pour partager avec vous, autour de la parole de Dieu, dans ces essentiels de la foi. Merci parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, plus nombreux à me poser des questions, à échanger avec moi. Ça enrichit mon travail, ma recherche. Alors n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse contact.pasteursam@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de prendre vos questions et de revenir au fur et à mesure des cours pour venir ensemble chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu veut nous dire, les principes fondamentaux de la foi, afin que nous puissions avoir des racines qui sont profondes, qui sont sincères, qui sont solides. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé des miracles. Des miracles, et plusieurs commentaires sont arrivés, en particulier deux commentaires, un commentaire et une question que j'ai retenue. En rapport avec ce thème des miracles, nous avons dit, est-ce que Dieu fait encore des miracles? C'est une question qu'on peut se poser dans un monde qui est très loin de la foi. Et je vais prendre d'abord la remarque de William. William nous a dit, mais il y a un problème avec ceux qui voient des miracles partout. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi William, que dans le monde chrétien parfois, dans les églises évangéliques parfois, on veut quelque part gonfler l'activité de Dieu en voyant des miracles dans des situations qui n'en sont pas. Et je pense que ça peut nous desservir. Il est bon de présenter à nos compatriotes, à ceux qui n'ont pas encore découvert la foi, l'importance de l'action de Dieu dans les vies, l'importance du miracle de Dieu dans les vies. Et le premier miracle, d'ailleurs, c'est la conversion. C'est ce que Dieu est capable de faire dans les cœurs. Et puis, Dieu agit dans le corps, Dieu relève, Dieu guérit. Et c'est important de témoigner de ces choses-là pour amener des personnes incrédules à la connaissance de Dieu. Mais ça ne sert à rien de vouloir gonfler le palmarès divin d'événements qui n'ont pas eu lieu. Et parfois, on voit des guérisons là où il y a simplement le passage normal de la maladie. On voit des miracles dans des situations. Alors, je suis d'accord avec la remarque de William, mais je dirais pour compléter que il n'y a pas en soi un péché d'attribuer une situation qui ne serait peut-être pas totalement miraculeuse. Des fois, cela part d'un bon sentiment et il faut reconnaître qu'il vaut peut-être mieux être dans l'action de grâce et dire trop souvent merci que d'oublier de remercier Dieu pour des situations où il est réellement intervenu. Alors, il y a l'autre situation où peut-être la médecine est passée par là, où des traitements ont fonctionné et on a peut-être prié pour cette situation et la personne n'est plus malade. Alors, est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est simplement l'intervention des médecins? Et là, je pense qu'il est important de reconnaître que le miracle, et ça va m'amener à la question de Cyrielle, la question de Cyrielle, c'est qu'est-ce qui définit finalement un miracle? Quels sont les éléments qui peuvent définir un miracle? Dans le cadre de la médecine, où quelqu'un deviendrait sain, désormais rétabli après avoir suivi un traitement, il faut reconnaître que dans ce cas-là, il n'y a pas de miracle. Il y a simplement la réalité normale d'une situation. Et peut-être que nous avons prié pour cette personne. Et l'important, là, pour remercier Dieu, c'est de dire merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu as soutenu cette personne qui était malade, tu as guidé, tu as, donné de la sagesse aux médecins. Et même peut-être, les médecins sont chrétiens, on demandait peut-être le secours de Dieu dans certaines situations, mais on mobilisait en fait une science qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Et donc là, on n'est pas totalement dans le domaine du miraculeux. Ce que l'on pourrait définir, pour répondre à Cyrielle, comme le miracle, c'est toute réalité qui prend forme et qui n'existait pas. Là où il y a intervention de Dieu réelle et profonde, c'est quand il y a une création de quelque chose qui était cassé ou qui n'existait plus. Quand il y a le rétablissement surnaturel d'une situation qui était définitivement perdue. Quand on voit un paralytique qui se lève et qui marche du temps de Jésus, là on est sur du miracle. Quand on voit quelqu'un qui était sur son lit de mort, peut-être atteint d'un cancer, qui se relève, là on est dans le miracle. Les diagnostics des médecins montraient que les cellules étaient en train de se détruire, et là, manifestement, il n'y a plus de traces de maladie sans intervention médicamenteuse, là on est dans le miracle. Alors le miracle n'est pas simplement que sur la maladie. Il peut être sur des situations. On peut être sur une manifestation météorologique, on va dire, quand le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge, quand le peuple d'Israël va traverser le Jourdain, quand la tempête peut s'arrêter sur le lac de Galilée. Et ça peut être aussi, par exemple, des prodiges qui ressembleraient aux multiplications des pains que Jésus a expérimenté avec ses disciples. et que d'autres peuvent expérimenter dans des situations précaires, dans des situations où il y a manifestement besoin d'une intervention divine. Sans cette intervention, la réalité n'est pas possible. Donc voilà ce qu'est le miracle. Alors parfois, dans les témoignages que l'on va entendre, on va peut-être avoir un mélange de miracles concrets, réels, qui se sont bien réalisés, gloire à Dieu. Et puis peut-être des fois, une action de grâce peut être anticipée sur des choses qui ne sont pas totalement miraculeuses, mais on va dire gloire à Dieu. Parce que quelque part, à notre niveau, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons n'augmentera pas la gloire de Dieu, n'augmentera pas le prestige de Dieu. Mais simplement, il faut réaliser que nous devons toujours rendre grâce et qu'il est important de témoigner pour que ce miracle qui a été vécu à un endroit puisse se vivre à un autre. Parce que la foi va être comme boostée par le témoignage d'un vrai miracle. Par contre, parfois le chrétien va essayer de booster sa foi en inventant des miracles. Alors ce n'est pas forcément conscient ou volontaire, mais moi j'ai envie de vous dire, n'essayez pas de rajouter des témoignages quelque part un petit peu fabriqué pour augmenter votre foi. Ce n'est pas ça qui doit baser la force de notre foi, ce n'est pas le miracle en soi, ce n'est pas ce qu'on entend qui peut augmenter notre foi ou en tout cas la créer, parce que notre foi à la base n'est pas liée à ce que Dieu fait, mais liée à la nature de Dieu et à la nature de notre relation que nous pouvons établir entre lui et entre nous. Voilà ce que je voulais dire pour revenir sur les questions et les commentaires de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question, je vais vous présenter un sujet beaucoup plus pratique cette fois-ci, beaucoup plus pratique sur notre personne à nous. Est-il vraiment nécessaire de pardonner? Voilà le titre de mon partage. Est-il vraiment nécessaire de pardonner? C'est vrai que le pardon, on en entend souvent parler et on se pose sûrement des questions par rapport à cela. Et pour commencer, je vais prendre une citation, et cette fois-ci, je ne suis pas allé chercher dans la philosophie contemporaine ou ancienne, je suis allé simplement chercher dans notre culture, dans la culture française, et j'ai trouvé un proverbe qui m'a beaucoup intéressé, un proverbe guadeloupéen. Je ne suis pas antillais, mais en tout cas, j'ai trouvé ce proverbe qui dit « Pardon ne guérit pas la bosse. » Le pardon ne guérit pas la bosse. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parfois les proverbes parce que c'est une sagesse qui est là, qui est culturelle, qui est installée et qui est souvent une sagesse héritée de la constatation, de ce que l'on observe. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on pardonne ou le fait de pardonner, apparemment, et ce que l'on constate souvent, c'est que ça ne guérit pas, ça laisse des traces. Et du coup, souvent, le mécanisme qui a pu trouver place dans le cœur de l'homme, c'est de se dire, est-ce qu'il est vraiment important que je pardonne? Est-ce que je vais prendre la peine de pardonner parce que finalement, j'ai l'impression que je ne vais pas forcément être mieux après? Je vais garder une trace, et puis finalement, si c'est moi qui pardonne, finalement, la personne que je pardonne, c'est elle qui m'a fait du mal, et je n'ai pas envie de pardonner parce que c'est elle qui m'a blessé, c'est elle qui m'a abîmé. Alors je vais faire un peu le constat aujourd'hui d'abord de ce que l'on peut observer dans la société, dans le monde, autour de nous. Qu'est-ce qu'on observe? On observe de la violence, on observe de la haine, on observe de la défiance, des vies brisées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité du monde est tellement focalisée sur cette pandémie qu'on a peut-être oublié qu'il y a énormément de souffrance dans le monde. On a peut-être oublié qu'aujourd'hui les guerres ne se sont pas arrêtées. Le virus touche peut-être les corps. Mais dans plein d'endroits dans le monde, là où il y a des conflits, là où il y a des guerres civiles, là où il y a de la souffrance, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain parce que certains pays se sont confinés. La souffrance est toujours là, la violence entre les hommes est toujours là. Et si on réfléchit un petit peu, si on creuse un petit peu ces situations de conflit, de haine, de violence, il y a toujours des gens qui sont tués, il y a toujours des gens qui sont violentés. Encore aujourd'hui, en France, et on le sait, pendant ce confinement, il y a peut-être des enfants qui sont maltraités. Il y a peut-être des femmes qui sont maltraitées. Et toute cette violence, cette haine, cette méchanceté qui s'exprime dans le monde, souvent, va générer des situations bloquées, des situations de pardon nécessaires, des situations peut-être des fois enclenchées par un non-pardon. Peut-être parce que quelqu'un m'a fait mal, je vais décider de lui faire du mal à mon tour. Et finalement, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est résumée en quelques secondes. Un premier Homme fait du mal, le second veut lui faire du mal en retour. Et la vengeance, le cercle de la vengeance, le cercle du non-pardon, va entraîner comme un effet de boule de neige qui va détruire tout sur son passage, qui va entraîner le monde entier dans sa chute vers la violence, vers la haine, vers la défiance, vers le ressentiment mutuel. Souvent, on va se dire, parce qu'on m'a fait du mal, je me vengerai. Ou parce qu'on m'a fait du mal, je n'oublierai pas ce qui m'a été fait. Et quelque part, cette phrase, là aussi, c'est une forme de proverbe. On dit souvent en France que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, c'est des choses que l'on va garder en nous et que l'on va ressortir plus tard. Et ça place le monde, ça place la société, ça place les relations humaines dans des impasses, dans des situations bloquées. Alors moi, évidemment, ce soir, je ne suis pas là pour vous parler juste d'un constat d'échec et de la difficulté du monde à se pardonner. Je suis en train d'être là pour vous parler en tant que pasteur et dire, mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à tout cela? Est-ce qu'il y a une voie? Est-ce qu'il y a une issue? Quel est le comportement que nous devons adopter? Et si vous voyez que j'ai la Bible depuis tout à l'heure dans les mains, c'est parce que je vais regarder avec vous dans la Bible des textes. Et j'ai envie de m'intéresser à l'enseignement de Jésus par rapport à ça, justement. Et parce que Jésus a rendu le pardon central dans son enseignement, a vraiment mis du temps, de l'énergie pour parler de ces choses-là et pour nous en dire beaucoup de choses. Alors nous allons lire trois textes. Nous allons regarder d'abord dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, dans ce grand discours que l'on a appelé le sermon sur la montagne du chapitre 5 au chapitre 7. Jésus va parler de différentes choses, et dans le chapitre 6, au verset 14, nous lisons « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Là, on est sur un texte extrêmement fort. Dieu va conditionner, quelque part, le pardon qu'il veut nous accorder en tant que Père qui envoie son Fils pour mourir pour nos péchés. Donc il pourvoit à ce moyen du pardon et du salut, mais il conditionne son pardon de notre propre attitude par rapport aux autres. Ça, c'est très fort comme texte. C'est très fort et ça nous engage beaucoup, et ça va déterminer toute la discussion que nous allons avoir par la suite. Nous lisons aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 25, un texte qui nous dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos offenses. » Je vais lire un autre texte qui est un petit peu différent dans le livre de Romains au chapitre 12. L'apôtre Paul nous dit au verset 19, il nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ces trois textes sont comme un ensemble de textes qui vont aller dans la même direction de la nécessité de pardonner. Car oui, il est indéniable, bibliquement, on ne peut pas les chercher ailleurs, on ne peut pas tourner les choses dans d'autres sens. Et la réponse est claire, nous devons pardonner. Nous devons pardonner, et je vais vous donner trois arguments qui nous disent vraiment, par rapport à ces textes que nous avons lus, que nous devons pardonner. La première chose, finalement, c'est qu'en pardonnant, nous allons laisser Dieu régner. Et ça, c'est important, parce que dans la Bible, c'est toute l'histoire de la Bible. Toute l'histoire de la Bible, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Et Dieu qui se révèle à l'homme tel qu'il est. Dieu veut se révéler à l'homme comme celui qui règne, comme le Créateur, comme le Tout-Puissant. Et il veut accueillir l'homme comme son enfant, comme sa créature. Mais il faut laisser régner Dieu. Pourquoi je dis cela? C'est tout simplement que ce texte de Romains nous dit quelque part que nous ne devons pas laisser la colère guider nos vies, nous ne devons pas laisser le non-pardon guider nos vies, parce que nous devons laisser à Dieu ce qui lui revient. La vengeance, la rétribution des actions, revient à Dieu. Et nous n'avons pas, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, besoin et le devoir de nous faire justice. Dieu nous fera justice si nous avons été victimes d'une injustice. Mais nous devons donc pardonner à la personne qui nous fait du mal afin de pouvoir nous avancer dans la vie et laisser Dieu agir en son temps pour les actions qui sont à notre encontre mauvaises. Et peut-être même, j'ai envie de vous dire, et peut-être ça va décevoir certains, Dieu ne fera pas forcément justice sur cette terre. Souvent, on cite ces versets de la Bible en disant « à moi la vengeance, à moi la rétribution » en pensant que Dieu va nous justifier sur terre. Et parfois, ben non, nous sommes victimes d'injustice et toute notre vie, nous allons avoir cette injustice-là et peut-être que les hommes ne nous rendront pas justice. Peut-être même que nous serons victimes d'une injustice et que nous aurons ces événements marquants dans nos vies. Mais l'important, c'est le pardon, c'est de se détacher de ces situations-là. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur les situations particulières tout à l'heure. La deuxième chose que nous pouvons dire, qu'il est important de pardonner parce que c'est la condition de notre propre pardon. Comme Jésus le dit lui-même, pardonnez les offenses à ceux qui vous ont offensé afin que je vous pardonne moi-même. Il y a un véritable lien entre ce que nous faisons et ce que Dieu fait vis-à-vis de nous. Et Jésus a illustré à plusieurs reprises cela par des paraboles qui nous montrent que Jésus, à travers son sacrifice, a payé un prix extraordinaire pour nos vies. Et ce que Dieu fait en nous pardonnant, c'est comme s'il nous remettait une dette qui était extraordinaire, que nous ne pouvions pas rembourser. Par contre, quand nous sommes dans nos relations avec les autres, ce que les autres nous font à notre égard, même quelle que soit la difficulté de la situation, cela représente tellement peu par rapport à ce que Dieu a pardonné à notre égard. Alors c'est pour ça que Dieu veut que nous puissions pratiquer ce qu'il pratique à notre égard, que nous puissions remettre la faute, remettre les offenses de ceux qui nous ont offensés et les libérer de ce qu'ils nous ont fait. C'est une condition de son pardon et à un moment donné, les disciples vont poser la question, et en particulier Pierre est curieux de cette situation, va dire « Mais combien de fois suis-je obligé de pardonner? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une... » Et Jésus va avoir une réponse extraordinaire parce qu'il va répondre d'une manière où il est quasi impossible de se dire que finalement il y a une limite au pardon. Il va lui dire, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois, chaque jour. Donc en gros, quelque part, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ce n'est pas quelque chose que l'on compte, ce n'est pas quelque chose que l'on mesure, c'est quelque chose que l'on libère. Le pardon, c'est comme une source que l'on libère sur les autres, sans vouloir compter, sans vouloir être dans la... Ça, c'est possible, ça, c'est impossible. Non, c'est une attitude, c'est un style de vie que l'on installe dans nos vies parce que l'on veut ressembler à celui qui est notre maître. La troisième chose, c'est que, comme nous l'avons vu dans ce verset de Marc 11, 25, le pardon, il est important parce que il va permettre la relation à l'autre. Il dit, si tu as quelque chose, tu es en train de prier, que tu as quelque chose contre ton frère, vas-y, règle le problème avec lui et commence à prier. Parce que quand nous ne sommes pas en accord les uns avec les autres, nous ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas être en lien avec Dieu. Alors peut-être que tu vas venir prier et tu as quelque chose contre quelqu'un. Et tu as continué à prier, ça fait des années que tu n'as pas pardonné. Et tu peut-être t'es installé dans une habitude de prière par rapport à Dieu. Tu penses que Dieu est là à l'écoute. Mais sache qu'il est tellement important, tellement urgent de régler les situations dans ta vie qui te bloquent. Parce que oui, tu es bloqué dans ta relation avec Dieu, et ta relation avec Dieu prendra une ampleur bien plus importante si tu décides de régler aujourd'hui les problèmes qui te pèsent depuis des années. Alors, j'ai dit que je reviendrai sur les situations difficiles. Parce que là, on est dans la théorie quelque part. On est dans « il faut faire, il faut, il faut, il faut ». Parce que voilà, c'est conditions de notre pardon, parce que ça doit être non limité, parce que c'est Dieu qui est celui qui se vengera des actions qui sont contre nous. Toutes ces choses, on le sait, peut-être que vous le savez déjà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'offense qui est sur nos vies est tellement lourde à porter qu'elle nous empêche de vivre? Comment on fait quand la personne que je dois pardonner, c'est quelqu'un qui a abusé de moi? Comment on fait quand la personne qui m'a pardonné, c'était celle qui était censée m'aimer? Alors là, je voudrais parler d'une dimension qui nous dépasse. Nous pouvons avoir plusieurs de niveaux de pardon dans nos vies. Il y a d'abord ce pardon que nous accordons assez facilement dans nos relations humaines. Quelqu'un nous a mal parlé, on le pardonne, on le relâche, on lui dit ne t'inquiète pas, je te pardonne, je n'ai pas retenu quelque chose contre toi. Et puis il y a ces types de pardons qui sont beaucoup plus difficiles parce qu'ils englobent toute notre identité, tout notre être tout entier. Et dans ce cas-là, parfois, il faut recourir à la prière. Il faut demander à Dieu la force, l'aide pour qu'il nous aide à rentrer dans cette dimension du pardon. Et parfois, ce travail va être progressif. J'ai envie de te dire, ne te culpabilise pas si tu es dans ce chemin du pardon, parce que déjà, le fait de te poser la question, c'est un premier pas vers ce pardon dont tu as besoin. Parce que j'ai envie de te dire aussi que, contrairement à ce que tu penses, actuellement, c'est toi, oui, qui as été blessé, c'est toi qui as été brisé par une situation, mais le fait de ne pas pardonner, tu ne punis en aucun cas celui qui t'a fait du mal parce que peut-être qu'il ne s'est même pas occupé de ce qu'il t'a fait. Tu te punis toi-même. Et en fait, tu as besoin toi-même de ce pardon. Le fait de pardonner te libérera, et je le crois. Alors, peut-être que tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pardonner? Et c'est un chemin qui démarre pour toi. Mais prie Dieu qu'il puisse t'aider à rentrer dans cette dimension du pardon. Prie Dieu qu'il puisse t'aider à te libérer de ces choses qui te pèsent depuis des années. Et je crois qu'il le fera. J'ai entendu assez de témoignages, j'ai lu assez de textes pour me convaincre que Dieu est celui qui travaille avec puissance avec nous et avec le pardon. Il est collaborateur de cette action-là avec nous parce que nous serons toujours l'obstacle au pardon si nous décidons de ne pas pardonner. Mais du moment qu'on va tendre notre main pour rentrer en collaboration avec lui, je crois qu'il t'aidera à vivre cette dynamique libératrice du pardon. Et j'ai envie de finir sur cette phrase, peut-être que tu peux retenir, sans pardon, nous sommes dans une prison. Sans pardon, c'est la prison. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte, et ce n'est pas finalement l'offense que tu as vécue, ce n'est pas ce qui a été difficile à vivre pour nous, l'action mauvaise de quelqu'un à notre égard qui finalement nous emprisonne. Ce qui nous emprisonne, c'est le fait de ne pas pardonner, c'est le fait de garder là près de nous cette offense. Parce que quand nous ne pardonnons pas, c'est comme si nous prenons cette action mauvaise qui a été déposée sur notre vie, toute la méchanceté, toute la violence qui a été à notre égard, toute la haine, et c'est comme si nous la conservons dans notre proximité. Nous conservons cette chose près de nous et en ne pardonnant pas, nous la faisons rentrer dans notre maison et nous en faisons une prison. Alors le pardon est libérateur et je t'invite vraiment à vivre cette réalité-là. Est-ce que pardonner, et pour finir, je vais te poser cette question, est-ce que pardonner, c'est oublier? Pas forcément. Il y a des situations où, avec l'aide de Dieu, nous pouvons avoir un certain oubli de certaines situations et de certains détails, et c'est une bonne chose parfois. Mais ça ne veut pas dire que pardonner efface la chose au sens qu'elle ne fait plus partie de notre vie. Évidemment que certains événements douloureux font partie de notre vie, mais l'important, c'est de se libérer, c'est d'enlever ces barreaux de notre prison, c'est de sortir de cette prison pour pouvoir véritablement vivre notre destin plein de liberté en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est par Jésus. En faisant cela, nous ne sommes pas en train d'inventer une théorie, une manière de vivre, un style de vie pour être bien dans notre corps, dans notre esprit, mais on est en train de recopier tout ce que Jésus a fait. Il a pardonné des gens qui lui ont craché au visage. Il dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au moment le plus ultime de sa souffrance, il pardonne à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Alors moi, je vous invite vraiment à vivre ce style de vie du pardon, parce que c'est essentiel. Alors vous voyez que j'ai tourné la vidéo dans un contexte un peu différent que les précédentes fois. Je ne suis plus sur mon canapé ou au coussin orange. Ça vous permet de visiter mon intérieur pendant ce temps de confinement. Mais vous voyez que derrière moi, il y a ce tableau de ma femme et moi. Et ça me permet de faire cette transition sur le pardon. Quand je me suis marié, cela fait bientôt 5 ans, et déjà un petit peu avant le mariage, j'avais compris que le pardon allait être essentiel dans la vie de couple. Le pardon est essentiel dans la vie d'un couple. Sans pardon, et je m'adresse peut-être aux célibataires qui sont en train de découvrir peut-être une chose, mais aussi aux couples, sans pardon, nos relations, qu'il y ait de l'amour ou pas, nos relations sont impossibles. Comprenez bien que le pardon, c'est peut-être la réalité la plus puissante de la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui libère, c'est ce qui transforme. Et dans la relation de couple que l'on peut avoir avec une épouse, avec un époux, je peux vous garantir qu'il y a de nombreuses occasions de demander pardon ou de pardonner. Parce que la cohabitation de deux personnes va faire de la friction. On n'a pas le même avis, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes arrière-plans. Et puis, du coup, ça fait des conflits, ça fait des situations. Évidemment, ce n'est pas la haine, ce n'est pas des offenses que l'on peut vivre dans d'autres situations. Mais le pardon est essentiel pour servir de ciment au couple et de force à l'union qui a été consacrée devant Dieu. Et j'ai appris, j'apprends encore aujourd'hui, j'ai appris la puissance du pardon. La puissance aussi de s'humilier, de demander pardon, même quand on a raison. Parce que le pardon libère, le pardon garantit la solidité d'un couple. Le pardon permet de nous préserver de l'action de l'ennemi qui essaye finalement de diviser, d'amener de la haine, d'amener de la tristesse, d'amener de la culpabilité là où il pourrait régner l'amour. Alors, vivons cela dans nos relations humaines, vivons cela avec nos collègues de travail, vivons cela à l'église, vivons cela chaque jour et pardonnons, pardonnons sans compter, afin que nous puissions réellement vivre ce que Jésus a envie de nous faire vivre, c'est-à-dire des relations qui sont saines, des relations qui sont apaisées. Et si l'offense est grande, si la difficulté est grande sur vos vies, rappelez-vous cette chose, c'est que Dieu voit toutes choses. Et que c'est lui qui a entre ses mains, lors du jugement dernier, il verra, il pèsera les actions des hommes. Mais vous concentrez-vous sur votre bien-être spirituel, pardonnez pour vous rendre libre, parce que sans pardon, on reste dans une prison. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à poser vos questions, comme je l'ai dit en introduction. Contactez-moi à l'adresse qui s'affiche en bas, contact.pasteursam@gmail.com. Vous pouvez poser aussi vos questions en commentaire de ces vidéos ou si vous les voyez en rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.